All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible.
Nous avions un temps merveilleux dans ces deux, trois derniers soirs. Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste pour cela. Beaucoup sont nés dans le royaume de Dieu. Et nous avons aussi entendu de bons témoignages sur le service de guérison. Et nous avons entendu que cette fille qui avait été apportée ici d'une autre ville, elle avait de la leucémie et elle a été aujourd'hui déclarée comme guérie par son propre médecin. Elle devait devenir missionnaire. Vous vous rappelez de ce cas? Satan a essayé de lui ôter cela, mais le Seigneur l'a guéri et le prédicateur aveugle a retrouvé sa vue et aussi d'autres. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui a accordé le don du discernement des pensées et a révélé les difficultés des différentes personnes. Et j'ai demandé aux personnes que ce serait possible qu'ils puissent rester ici pour pouvoir rendre témoignage. Est-ce qu'il y a eu un changement visible après qu'on ait prié pour eux? Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait quelqu'un qui serait resté de cette réunion et qui ne serait pas reparti, qui ne devait pas repartir à la maison. Et vous ressentez qu'il y a eu un changement en vous qui a eu lieu. Si vous êtes ici, je ne vois encore aucune main levée. Je ne sais pas si les personnes pouvaient rester ici. Oui, là-bas, je vois quelqu'un. Ça, c'est très bien. Tu ressens qu'il y a eu un changement après qu'on ait prié pour toi. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Ce n'était pas visible d'une manière que nous pourrions le constater, mais c'était une femme et dans la vision, elle avait aussi une difficulté de mémoire. Et le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit ce qui s'était passé dans sa vie. Et ensuite, il lui a dit autre chose et elle ne pouvait pas se rappeler. Et ensuite, il lui a été dit d'une personne avec une longue barbe et des longs cheveux qui avait prié pour elle. Et ensuite, elle avait vraiment perdu la mémoire et a dit non, c'est pas vrai. Mais le Saint-Esprit lui a même cité la personne avec le nom et où est-ce que c'était et quand est-ce que c'était la date précise. Et c'est à ce moment-là qu'elle a retrouvé sa mémoire, elle a dit oui, je me rappelle de cela. Or, comme le Saint-Esprit est parfait, il est une réalité. Oui. Nous sommes beaucoup ce soir. La salle est remplie, c'est une réunion. Je vais bientôt vous quitter. Je suis heureux de ce que je peux retrouver tous ces amis, le frère Rochette de Wexton et le frère Grich. Il était hier soir ici et aujourd'hui, dans l'interview, le Saint-Esprit était vraiment merveilleux. Peut-être que cela demeurera ainsi pendant un temps jusqu'à que la tente vienne. Peut-être sous le même ministère que j'ai commencé, que j'ai reçu. Aujourd'hui, j'ai reçu 4 différentes visions et j'espère que cela demeurera ainsi comme cela va commencer avec la tente. Ou quoi que il mentionne pour que son nom soit glorifié et que des ordres soient donnés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je fais confiance au Seigneur de ce que ce qu'il fera sera encore plus grand que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pas à cause du ministère, mais à cause des besoins des hommes dans leur maladie. Il y a tellement de difficultés parmi le peuple et de besoins. Je ne veux pas tarder longtemps ce soir, car beaucoup doivent se tenir debout. Avant que nous lisions sa parole, nous voulons nous adresser à lui personnellement. Nous courbons nos têtes. Dieu fidèle, nous venons maintenant dans ta sainte présence avec un cœur humble et des têtes courbées. Nous te demandons de nous pardonner tout ce que nous avons fait, pensé ou dit. Qui a été contre ta nature et ta volonté et tes pensées. Nous te demandons que tu puisses nous pardonner dans ta miséricorde, chacun individuellement de nous. Nous sommes ici réunis pas pour une autre raison que de t'adorer et de t'exprimer notre reconnaissance. Nous sommes convaincus et certains que cette petite réunion ici, ces hommes qui sont rentrés ici se réunir en grand nombre, ne sont pas venus pour se laisser voir par les autres. Ils ne sont sûrement pas venus pour une autre raison que de t'exprimer leur amour. Il y en a même qui sont restés dehors et qui se tiennent debout dedans ici. Non. C'est parce qu'ils croient que tu es merveilleux et que tu récompenses ceux qui te cherchent. Nous te demandons le pardon pour tous les hommes. Que ta puissance puisse toucher et venir sur les malades et ceux qui sont en besoin. Nous te demandons, bénis ta parole alors que nous la lirons. Nous ne sommes pas capables d'apporter cette parole. Que le Saint-Esprit lui-même puisse venir et nous ouvrir la parole, entrer dans cette parole et l'implanter dans le cœur des hommes. L'implanter dans le cœur des hommes. Que cela soit une grande récolte d'âmes et une guérison, un service de guérison puissant. Nous te demandons tout cela humblement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme écriture, ce soir, je voudrais lire dans 2 Rois, en commençant avec le chapitre 6, le verset 8. Chapitre 6, verset 8. Et mon texte ce soir s'intitule « Regardez en regardant à l'invisible ». Le premier soir, j'avais parlé de se lever de l'histoire et dans l'histoire. Et le deuxième jour, j'ai parlé, ce n'était pas ainsi depuis le commencement. Ce n'était pas comme ça au commencement. Matthieu 19. Et aujourd'hui, le sujet, c'est regardant à l'invisible. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que le Seigneur puisse accorder à la lecture de sa parole sa bénédiction. C'est quelque chose de particulier et d'étrange de ce que les hommes qui sont créés à l'image de Dieu et qui ont été appelés pour marcher dans la foi en le Dieu qui existe. C'est étrange de ce que ces hommes-là ont choisi de marcher selon ce qu'ils voient sans croire. L'homme est créé et tout ce qui est en lui a été fait selon l'image de Dieu. Et Dieu, qui est le grand Jéhovah, lui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà, et les hommes ont été créés pour marcher de cette manière avec Dieu. Romains 4, verset 17. Et malgré tout, ils ont choisi de marcher selon ce qu'ils voient. Ils veulent être leur propre chef. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la nature de l'homme. Cela est déjà prouvé par ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors qu'ils avaient perdu leur communion avec Dieu et qu'ils avaient choisi de marcher dans leur propre voie, personne ne devait dominer sur eux. Mais un homme a été fait comme une brebis. Une brebis ne peut pas trouver d'elle-même son chemin. Ne peut pas retrouver d'elle-même son chemin. Il m'a été dit que si une brebis est perdue, elle est parfaitement perdue. C'est ainsi aussi avec les hommes. Si un homme est perdu, il est absolument sans secours. Il a besoin d'un berger qui le conduit. Si les hommes choisissent d'eux-mêmes, alors aussi dans ce temps, ce sera toujours plus grave avec leur situation. Car ils choisissent de marcher selon ce qu'ils voient et pas selon ce qu'ils croient. Dans une ferme assurance des choses qu'ils espèrent et une demandation de celles qui ne voient pas, selon Hébreux 11, verset 1. Et c'est justement cette incrédulité qui dérobe ce qui est la nourriture de l'homme intérieur et de l'âme. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ainsi que le Seigneur le dit. Mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Bon, si déjà, pour exister physiquement, tout esprit, tout, ils prennent soin de cela, alors ce n'est pas le sens principal de l'homme. Les choses extérieures sont minimes
et ont moins d'importance à côté de ce qui est spirituel. Il s'agit de l'intérieur. Il s'agit de l'intérieur, car l'intérieur vient de Dieu, vient du ciel. La partie éternelle dans l'homme. Et l'homme prend soin seulement de ce qui est extérieur, de son physique, de son existence. Et c'est étranger de voir que l'homme cherche toujours à trouver son propre chemin. Nous retrouvons dans la Bible que si les hommes choisissaient de marcher de leur propre manière, alors Dieu les laissait partir comme ils voulaient marcher. Il les laissait marcher comme ils voulaient. Les hommes ne doivent pas penser pour eux-mêmes, mais avoir les pensées de Jésus-Christ en eux. Nous ne devons pas nous-mêmes penser, mais nous devrions renier tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit. Ça n'a pas d'importance ce que nos yeux voient et ce que nos sens ressentent. Nous ne vivons pas seulement selon ce que nous voyons, mais selon ce que nous croyons. Nous vivons selon une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Selon Marc 11, verset 24 aussi. J'écoutais il n'y a pas longtemps à la radio, et alors que j'allais à l'école du dimanche, et c'était une discussion qui avait été tenue autour des jeunes. Et je me posais alors la question, qu'est-ce que c'est cela? Pour eux, ce qui semblait être important, c'est le partenaire et qu'elle trouve ou bien qu'il trouve. Et comment devraient être ses cheveux, etc. Elle était en train de parler du partenaire. C'était son plus grand problème. Mais ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est votre Dieu et votre Créateur, de lui, de le trouver. Vous ne devriez jamais accepter le mélange en vous mariant. Mariez quelqu'un qui croit exactement 100% ce que vous croyez. Car Dieu est la chose la plus importante. Et c'est pour le servir que nous sommes sur terre. Lui, de le servir, pour le servir. Et si vous vous mariez et que vous faites quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous allez devoir payer pour cela dans les jours qui vont venir. Vous devez marcher dans la foi en accord avec la volonté de Dieu et pas selon ce que vous voyez et vous comprenez. Car le juste vivra par la foi. Nous regardons aux choses invisibles. Nous pourrions pendant des heures parler de ce siècle présent moderne. Comment est-ce que des hommes et des femmes cherchent et regardent toujours aux choses visibles. Et ils choisissent par exemple une assemblée dans laquelle ils peuvent eux-mêmes aller et apporter leurs enfants. Ils ne cherchent pas une assemblée qui est le plus spirituel, qui est la plus spirituelle, mais une assemblée qui est la plus grande et qui a le plus de membres et dont les membres sont les mieux habillés et les gens de la meilleure classe de la ville. On les appelle la meilleure classe, les maires et les présidents, selon leurs opinions. C'est la meilleure classe. Et dans cette assemblée, ils vont avoir un prédicateur duquel ils diront: il n'est pas intéressé de mon état intérieur. Il laisse les gens vivre comme ils veulent. Pour lui, ce qui est important, c'est qu'ils viennent, prennent part aux réunions. Mais l'esprit de l'homme dans tout son intérieur, si vraiment vous lui laissez toute la place, il va vous amener quelque part dans une mission simple, une assemblée simple, où il n'y a pas beaucoup de membres, mais où l'esprit du Dieu vivant est présent et agit. Car l'homme extérieur regarde toujours aux choses visibles, à la psychologie et à l'intellectualisme. Mais l'homme intérieur, il cherche la parole originale de Dieu. Si nous voyons, nous regardons dans la Bible et si nous constatons et considérons ses caractères, alors nous voulons en citer quelques-uns et en trouver quelques-uns. Je pense par exemple à Hébreux chapitre 11. Là-bas, nous lisons que Abraham était aussi seulement qu'un homme et il habitait dans la ville de Ur en Chaldéenne. Il était seulement qu'un homme normal, d'ordinaire comme tous les autres. Mais un jour, il est il est entré en contact avec Dieu. Et Abraham avait été transformé dans au même jour, au même moment. Aucune importance. Quoique, auparavant, il avait déjà pris part aux réunions, à l'assemblée. Mais le jour où il avait rencontré Dieu, il était devenu un autre homme, une autre personne. Il avait été transformé. Je ne crois pas que Abraham avait cessé d'aller à l'assemblée. Vous pouvez être des fidèles de l'assemblée et marcher intègre avec vos voisins. Mais si vous rencontrez Dieu, vous êtes des hommes transformés.
Il y a un temps passé, je me rappelle encore à cela, j'avais rencontré un homme intellectuel et il m'a été dit, est-ce qu'une religion peut avoir plus à proposer qu'une autre? Et je lui ai dit, moi j'ai rencontré le Dieu vivant et j'ai lu de sa bonté, de sa patience et de sa puissance. Et je crois à ces choses. Tant que quelqu'un peut croire, autant que quelqu'un peut croire. Mais un jour, j'ai rencontré celui dont j'avais lu. Et cela est devenu une réalité pour moi. Et j'ai été entièrement transformé. Et cela peut se passer avec chacun, encore aujourd'hui. Cela se passe encore. Si nous cessons de regarder d'après les choses visibles, de regarder les choses visibles, et dans la foi d'expérimenter ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, nous voyons Abraham. Il n'était plus un jeune homme. Il était déjà un homme âgé. Il avait 75 ans. Et sa femme Sarah, elle était sa sœur à moitié. Ils étaient déjà mariés depuis des années et des années. On dit qu'elle avait à peu près 17 ans quand ils se sont mariés. Dieu avait dit à Abraham, je t'ai choisi. Et toi et Sarah, pour que vous ayez un enfant. Et Sarah était stérile toute sa vie. Mais Abraham n'avait pas regardé à ce que ses yeux voyaient. C'est-à-dire à une vieille femme avec des rides. Mais il regardait à l'invisible. Et il voyait déjà Isaac. Dans la foi, il voyait déjà Isaac. Et après qu'il ait regardé à l'invisible, il a appelé les choses qui n'étaient pas encore, comme si elles étaient déjà. Il avait le regard pour les choses invisibles. Par la foi, il les voyait déjà accomplies. Il avait la vue pour les choses invisibles. Par la foi, il les voyait déjà s'accomplir. 2 Corinthiens 5, verset 7, 2 Corinthiens 4, verset 18. Et la Bible dit qu'il regardait à celui qui est invisible, comme s'il le voyait, celui qui marchait avec lui sur le chemin, selon Hébreux 11. Si un homme peut recevoir cette vue aux choses, aux dieux invisibles, et sait que Dieu est toujours présent pour confirmer sa parole, alors la pensée de cet homme reste persévérante et ferme. C'est sa conduite et sa marche, et même dans les temps d'épreuves et de difficultés, il reste ferme, fondé dans la parole de Dieu. Sans regarder les choses qui s'occupent, qui s'entourent et les circonstances difficiles, il regarde les choses invisibles par la promesse qu'il a reçue personnellement. Abraham n'a pas seulement regardé à l'invisible, et la raison pour laquelle il le croyait, c'était parce que Dieu l'avait dit. Si nous sommes morts en Christ et que nous sommes la semence d'Abraham, et si l'esprit qui habitait en Christ habite en nous, alors en nous il fera la même chose. Il fera le même effet. Chaque promesse divine, il va le prendre de cette Bible et va se reposer dans cette promesse. Selon Hébreux chapitre 11 verset 1. Mais si vous regardez selon vos yeux, cela ne va pas se passer. Hein, la foi est une chose, une démonstration des choses qu'on espère
et qu'on ne voit pas. Les nations partout sont dans le désespoir. Il y a du désespoir sans conseil. Partout il y a de la peur, partout, parmi les hommes. Tous les signes dont le Seigneur a parlé dans Matthieu 24 s'accomplissent. Des cris de guerre et des guerres, etc. Des signes au ciel et sur terre. De grandes choses vont se passer. Et il y en a qui disent qu'il y a des soucoupes volantes, etc. Mais il a ordonné à son église, au milieu de tout ce désespoir, de lever ses yeux, car ils savent que la rédemption est proche. Car le Christ invisible apparaîtra. Si nous marchons seulement selon ce que nous voyons, nous serions enfants des ténèbres et pas enfants de la lumière, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 4. Je suis heureux de ce qu'il y a une lumière qui luit dans le cœur de chaque croyant jusqu'au jour qui apparaîtra, jusqu'au jour du Christ. Alors nous reconnaissons que cela est une leçon pour nous tous. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham n'a pas seulement cru, il a aussi fait des préparations pour la naissance de l'enfant qu'il avait déjà vu dans la foi. Pendant 25 ans, avant que l'enfant naisse. Car il allait de soi. Il croyait que celui qui donne les promesses est aussi capable de l'accomplir. Romains chapitre 4. Il a atteint presque les 100 ans. Mais il n'a pas regardé à son état ni à l'état de sa femme. Et l'écrivain de ce livre dit qu'il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais dans la foi, il glorifiait Dieu et était toujours plus fortifié. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Il n'y a plus de besoin aujourd'hui que nous essayions. D'atteindre ces choses avec une foi intellectuelle. Non, jamais vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez passer d'assemblée en assemblée et de réunion de prière en réunion de prière et vous n'allez jamais pouvoir l'expérimenter. Vous devez arriver dans cet endroit où éternellement, une fois pour toutes, vous avez une rencontre avec Dieu, une fois pour toutes. Car, ou alors c'est Dieu qui l'a dit, ou alors ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Cela me fait mal au cœur de voir les hommes qui regardent selon ce qu'ils voient. Comme je le disais déjà depuis hier, Jésus-Christ a dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Et le cèpe qui a apporté la première branche, cela a eu lieu le jour de la Pentecôte. Les premiers sarments ont été manifestés et la bénédiction de la Pentecôte est décrite dans les Actes des Apôtres. Et si la première branche était la Pentecôte, alors tous les autres sarments et les autres branches doivent être aussi le déversement du Saint-Esprit, une Pentecôte. Et ce sera la même sorte de fruit et d'église qui apparaîtra comme était la première branche du cèpe dans Actes des Apôtres. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, chaque sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos dénominations et nos assemblées? Ils seront tous retranchés parce qu'ils ne portent plus le fruit de la Pentecôte, des Actes des Apôtres. Seulement ceux qui portent le même fruit que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres pour que les œuvres du Saint-Esprit aient aussi lieu encore aujourd'hui. Car la vie du sceptre est dans les sarments manifestés. Et la vie qui était en Jésus-Christ était dans la première église, dans les Actes des Apôtres. Il ne marchait pas selon ce qu'il voyait, mais il marchait dans la foi. Oh, quelle différence c'est aujourd'hui. Quand des hommes marchent dans la foi, comme Enoch, et il rejette et il renie les choses qui sont contre les promesses de Dieu. Nous avons besoin de ça dans l'église. Nous renions et nous rejetons. Pour nous, ça n'existe pas. Tout ce qui n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit, pour nous, ça n'existe pas. Aucun septum et rien du tout. Et tout ce que nos yeux voient, qui est contre la parole de Dieu. Regardez Moïse, par exemple, alors qu'il avait 40 ans. D'abord, il était un jeune homme. Tant que c'était le visible, Moïse avait le monde entre ses mains. Il aurait pu être le prochain de Pharaon en Égypte. le pays du monde était sous, était à sa disposition, était entre ses mains. Roi au-dessus de ce monde d'autrefois. Mais malgré tout, il a regardé par la même fenêtre par laquelle Pharaon regardait. Il voyait les Hébreux. Pour Pharaon, qui les regardait, ils n'étaient rien d'autre que des esclaves qui travaillaient pour lui. Et quand les hommes vus passaient, ils regardaient à ces esclaves-là avec mépris, comme d'en haut, qui piétinait la boue. Mais pour Moïse, l'image avait une autre signification, car il regardait à l'invisible comme si, et il se rappelait de la promesse que Dieu avait donnée de les délivrer et de les amener dans le pays. Il regardait à l'invisible. Il voyait les années qui étaient devant lui. Et il voyait l'Égypte déjà détruite. Et il attendait ce jour. Et nous voyons aujourd'hui, il voyait Israël déjà en sûreté comme Abraham et tout ceux-là dans la gloire. Moïse avait choisi de prendre le chemin le plus difficile et de rejeter la position la meilleure que le monde lui aurait proposée. Il avait choisi l'opprobre du Christ comme un plus grand trésor que tous les trésors de l'Égypte, car il regardait à l'invisible comme s'il le voyait. Dieu avait parlé avec Moïse et Moïse savait qui était Dieu. Moïse regardait à Dieu. Laissez-moi aujourd'hui ce soir vous dire la chose suivante. Moïse avait dans une main, dans l'une de ses mains, les choses les meilleures que le monde aurait pu lui donner. Rien de meilleur aurait pu lui être proposé que le monde avait, qu'il avait déjà. Mais de l'autre côté, le chemin le plus difficile et le plus méprisable lui a été proposé, lui a été placé devant les yeux. S'il était charnel, quel chemin il aurait choisi? Laissez-moi vous dire cela avec un cœur sincère et sans vouloir blesser qui que ce soit. Seulement pour que vous puissiez comprendre ces choses. Regardez, ne regardez pas aujourd'hui à ces grandes assemblées et à ces grandes dénominations qui sont bien habillées, etc. Regardez à Christ qui selon 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, qui pour vous s'est fait pauvre et de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et si vous cherchez une assemblée, ne regardez pas là où il y a tous ces gens qui sont vus, ou bien alors tous ces gens qui ont leur diplôme de docteur, mais regardez et trouvez ces hommes avec lesquels on regarde avec mépris. Moïse avait la chose la meilleure que le monde aurait pu lui proposer. Mais malgré tout, il a regardé à ce qui extérieurement était la chose la plus méprisable. Mais il marchait dans la foi et voyait à l'invisible. Il regardait à Dieu et il a choisi le pauvre du Christ comme le plus grand trésor que tous les trésors de l'Égypte. C'est là-bas qu'était le trône et la couronne, tout était pour lui déjà en Égypte. Il aurait pu entrer en possession de toutes ces choses en Égypte, mais par la foi, il a fixé le regard à Christ et il a marché dans le chemin étroit, méprisable, avec le peuple rejeté. Moïse n'est pas assis simplement et a dit, « Oh, je vais sympathiser avec ces hommes, avec ces Hébreux. » Et peut-être que vous aussi, vous dites, « Je ne veux rien dire contre cette assemblée. Parfois, si vous écoutez un message, alors ils disent, « Oh, je n'ai rien contre ces gens qui croient à la guérison divine et au miracle. » Cela ne suffit pas. Moïse n'a pas seulement sympathisé avec le peuple d'Israël et est allé sur le trône en Égypte. Et Moïse est allé parmi eux, il est devenu l'un d'eux. Je me rappelle à ces années en arrière, alors qu'on m'avait proposé cette grande proposition avec les assemblées baptistes et les assemblées presbytériennes. Ici, une femme de cette ville voulait même me financer. Mais alors que je voyais que
Ce groupe qui croit aux choses surnaturelles sont méprisés et on les rejette et on se moque d'eux et on leur désigne de rôle de saint. Comment est-ce que j'aurais pu demeurer un prédicateur baptiste? C'était pas possible. J'ai seulement dit, je n'ai rien dit contre eux, non. J'ai simplement choisi d'être l'un de ceux-là qu'on désigne de rôle de saint et qu'on méprise. Quand nous voyons ce qui se passe parmi eux, les signes du Dieu vivant, les choses surnaturelles, et Dieu est parmi eux et confirme sa parole, et guérit les malades et ressuscite les morts, alors je crois que c'est de ces milieux-là que vont sortir ceux qui prendront part à l'enlèvement. Que le monde puisse dire ce qu'il veut, sympathiser pas seulement avec le groupe des élus, mais devenir l'un d'eux. Marcher dans l'invisible et en regardant l'invisible, marcher avec Dieu, je vois déjà l'assemblée, l'église enlevée, je vois déjà Christ revenir et je le vois restituer l'église et la prendre dans la gloire. Mais ceux qui seront pris dans la gloire sont ceux-là qui sont justement méprisés mais qui marchent avec le Seigneur. C'est pour cette raison, devenez l'un de ceux-là au lieu d'être resté dans votre dénomination et avec les choses du monde et tout ce qu'on peut vous proposer. Moïse avait choisi de marcher dans l'opprobre du Christ parce que dans la foi, il voyait déjà ce qu'ils sont, car 400 ans étaient presque passés et la promesse avait été donnée qu'ils allaient être délivrés. La raison pour laquelle aujourd'hui je vais dans le champ missionnaire, dans ce mouvement, c'est parce que je crois qu'il y a à peu près 10 ans, alors que l'ange de l'Éternel m'avait rencontré et m'avait, depuis mon enfance déjà, celui qui avait parlé avec moi, il a dit que je dois sortir avec un message, avec ce message. Et parfois je ne crois pas à ce qu'ils font. Mais je crois que c'est de leur milieu que l'église du Dieu vivant sera appelée à sortir. Et c'est mieux d'être avec quelques personnes qui croient, d'être avec quelques personnes qui croient Dieu et au lieu d'être avec des millions de personnes qui renient Dieu et qui sont bien habillées. Leurs œuvres vont prouver ce qu'ils sont. Moïse regardait à l'invisible comme s'il le voyait. Et à la fin de sa vie, il a loué le Seigneur. Oh, j'aime dire ces choses. Quand il y a quelqu'un qui essayait de dire que Dieu était injuste, alors qu'après avoir laissé Moïse 40 ans avec le peuple, il ne lui fut plus permis d'entrer dans le pays. Mais ce qui est vrai, c'est que Moïse était 800 ans plus tard avec Élie sur la montagne de Carmel dans le pays de la promesse. À la fin de son voyage, alors qu'il se tenait là-bas sur la montagne et qu'il a dit au revoir au peuple, il regardait au-delà du Jourdain. Il avait 120 ans alors qu'il eut son dernier souffle de vie. Le rocher frappé était encore présent et les anges l'ont pris dans la gloire. L'ont pris. Et le monde, jusqu'à aujourd'hui encore, ne sait pas où est sa tombe. Car il regardait à l'invisible comme s'il le voyait. Aussi dans les dernières heures de sa vie, il aurait pu être pharaon. De l'autre côté, sur l'autre chemin, il aurait pu devenir pharaon. Mais il était sûr qu'il avait pris la bonne décision. Vous aussi, vous devez être certain que vous prenez la bonne décision. Josué, 40 ans plus tard, après qu'il soit passé dans le pays de la promesse, il était un militaire. Alors que sa première bataille s'approchait, là-bas, un endroit où il n'aurait jamais pu avoir la victoire de lui-même, il regardait à l'invisible. Car Dieu avait promis à Moïse qu'il allait leur donner la Palestine. Et c'est par la foi qu'il voyait déjà les murs de Jéricho détruits et écroulés. Et il a marché autour de la ville, et pour s'emparer de la ville en accord avec la parole de Dieu. Et quand les trompettes se sont faites entendre et que le peuple exaltait et louait, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Il regardait à l'invisible. Il marchait dans la foi Et ensuite, il a rencontré un homme qui avait tiré l'épée et qui l'avait rencontré. Et Josué lui a demandé, es-tu pour nous ou alors contre nous? Et l'homme a dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Et Josué a su alors que la victoire leur est déjà accordée. Vous, hommes, vous qui êtes ici, qui que ce soit, et avec le péché dans votre cœur, je ne pense pas que vous êtes en train de vivre dans l'adultère ou bien que alors vous vous saoulez. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité dans votre cœur. Ouvrez vos cœurs et fermez vos yeux et regardez au général de l'armée de l'Éternel qui est parmi nous ce soir. Et que vous soyez délivrés de tout lien du péché. Alors, les jours du doute et de l'incrédulité seront passés. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Il a été dit que si un serpent réussit à fixer les yeux d'un oiseau et à le regarder dans les yeux, l'oiseau est comme hypnotisé et paralysé d'une manière que le serpent peut l'atteindre. Même si l'oiseau essaye de remuer ses ailes, il est comme paralysé et le serpent peut l'atteindre. Ça, je peux le croire. Car je connais un autre serpent appelé le diable. Je sais d'un autre serpent appelé le diable. S'il peut atteindre nos yeux par toute sa séduction et toutes ces choses modernes, et la mort qui nous entoure et les choses de ce monde, s'il peut fixer nos regards sur ces choses, vous jeunes femmes, jeunes hommes, s'il peut vous hypnotiser et vous fixer sur ces choses, il vous paralysera et il va vous influencer et vous engloutir. Alors il m'a été dit que la seule possibilité que cet oiseau a pour avoir une chance, c'est de détourner ses yeux du serpent. Et de détourner tes yeux du serpent et de regarder vers le ciel et de détendre ses ailes, alors il pourra sortir de l'influence du serpent. Et si vous êtes encore enveloppé et enroulé dans les choses de ce monde, alors je vous dis, qui est celui qui vous dit d'être moderne et de suivre la mode et de vivre dans ces choses? Je vous dis, détournez vos regards de toutes ces choses, de regarder au Seigneur Jésus-Christ et d'étendez vos ailes de la foi jusqu'à ce que vous soyez sortis de l'influence du diable. Et le Seigneur parlera avec vous. Si quelqu'un disait que la guérison divine est fausse, détournez vos regards et vos oreilles de toutes ces choses et regardez à la parole de Dieu. Si quelqu'un dit que le discernement spirituel est de la télépathie, détournez vos oreilles et vos yeux de toutes ces choses, regardez à l'invisible. Comme Élisée avait dit à son serviteur, à Dothan, dans 2 Rois 6, verset 8, alors qu'il voyait l'armée syrienne. On dit que cet homme de Dieu était capable de révéler au roi d'Israël ce que le roi de la Syrie pensait dans son cœur, dans sa couche. Laissez-moi vous dire cela ce soir, assemblée. Le même Dieu vit encore aujourd'hui et il est le même encore aujourd'hui. Il peut toujours encore révéler les secrets, les pensées secrètes de votre cœur et ce qui vous anime. Alors, considérez et observez les fruits de l'esprit et regardez si c'est Dieu ou pas qui se révèle encore aujourd'hui dans notre génération. Et si ces grandes crises et ces grandes difficultés arrivent, comme avec ce serviteur d'Élysée, il pouvait être comparé à une assemblée normale, à un membre ordinaire d'une assemblée. Il ne pouvait pas voir ce que Élysée voyait, car il ne marchait pas encore dans la foi. Élysée regardait en tout temps dans l'invisible. Car Élysée connaissait la parole dans le psaume où il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, mais son serviteur avait seulement cru à moitié. Il était seulement un membre de l'église. Mais Élisée avait dit, « Oh Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et quand Dieu ouvrit ses yeux, alors le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et ils étaient tous autour du prophète. Ils étaient toujours là, toujours là. Mais le serviteur ne l'a jamais pas encore vu. Et ce soir, je vous dis la même chose. Le même Dieu qui se tenait là-bas et qui s'est révélé dans les actes des apôtres. Le même Dieu, le même Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai pas orphelin et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Il m'a été raconté d'un pilote qui volait dans un avion très rapide. Et il m'a été dit que quand l'avion atteint une certaine vitesse, alors ça vibre. Et c'est comme si même les ailes voudraient quitter l'appareil. Jusqu'à que cette vitesse du son surpasse le mur du son.
Après que le mur du son soit surpassé, alors l'avion vole tendrement, sans vibration. Quand ça a surpassé son mur du son, c'est la difficulté pour l'avion. Mais quand cela est surpassé, alors l'avion vole sans vibration. Aussi l'Église dans ce temps présent pouvait s'élever jusqu'à qu'elle ait surpassé les barrières du péché, les barrières de l'incrédulité, et qu'elle ait brisé tous ces murs. Et transpercer ce mur du son et voler directement dans la présence de Dieu. Le Dieu vivant est présent. Si nous pouvions mettre notre incrédulité de côté, notre doute dans sa parole, et surpasser ces états d'incrédulité, si les hommes disent que les temps des miracles sont passés, cela ne vous ébranle pas. Si les gens disent qu'il n'y a plus de baptême de cet esprit authentique, alors vous n'écoutez pas ces choses. Mais si vous regardez à l'invisible, alors il est dit que cette promesse est à vous et à vos enfants et à tout ce que le Seigneur appellera en plus grand nombre. Si vous regardez dans la parole de Dieu béni, vous voyez Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez à lui et volez jusqu'à ce que vous ayez transpercer ce mur du son, le mur de l'incrédulité, le mur du péché, et que vous ayez transpercé tous les murs de doute, et que vous soyez libre dans la présence du Dieu vivant, sachant que toutes choses sont possibles. Alors, à l'avion, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de vitesse. Il peut voler selon son bon plaisir. Auquel tu vas nous arriver si nous pouvions surpasser le mur du son. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que Jésus-Christ marchait sur les terres, il disait, je ne fais rien en dehors de ce que le Père me montre. Et alors il a dit par exemple à cette femme, au puits, et à une autre fois à un homme, et il lui disait, ton nom est Siméon, et le nom de ton père est Jonas. Comment est-ce qu'il a pu le savoir? Comment est-ce que cet homme de Galilée a pu savoir que le nom de cet homme était Siméon et que le nom de son père était Jonas? Jonas, car il était rempli de la puissance de Dieu et regardait à l'invisible, pas à ce qu'il voyait, non, mais il regardait au Dieu du ciel. Et ensuite, un autre homme lui a été apporté. Et on a dû lui raconter en chemin ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, sûrement que Nathanaël a dû être en dehors de lui-même. Mais quand il est arrivé auprès de Jésus, Jésus-Christ lui a dit, un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Comment est-ce qu'il a pu savoir? Jamais quelqu'un lui avait parlé de Nathanaël et que personne lui avait dit qu'il était Israélite. Il n'avait pas lu cela non plus dans un livre, mais il regardait par l'invisible. lui qui connaît la fin déjà depuis le commencement. Et Nathanaël a dit, Rabbin, d'où est-ce que tu me connais? Et il a répondu, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. Cela, il regardait à l'invisible la femme au puits. Il lui a dit, donne-moi à boire. Et il a dit ensuite, il lui a dit, si tu savais qui est celui qui parle avec toi, tu lui demanderais plutôt de l'eau. Elle ne savait pas qui parlait avec elle. Elle voyait en lui seulement un juif. Et elle lui a dit, nous n'avons pas de communion avec les juifs. Et l'entretien a continué jusqu'à que Jésus discerne son esprit et lui dise, tu ne sais pas. Et lui dit, va chercher ton mari. Et il a dit, je n'ai pas de mari. Et il a dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais qui es-tu? Et il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Et elle a couru dans la ville et elle a dit, venez et voyez un homme. N'est-il pas le Messie? Vous voyez? Ça, c'est le ministère que Jésus avait dans le monde connu d'autrefois. Et il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Écoutez ce qu'il a dit avant de monter au ciel. Il a dit, voici, je suis auprès de vous un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais le monde intellectuel, etc. Ça, c'est une prophétie et elle est la vérité. Jésus-Christ l'a dit et l'a prononcé. Ceux qui seulement croient avec leur intellect ne le voient pas. Mais il a dit, vous me voyez car je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et encore de plus grandes car je vais auprès du Père. Ce grand Dieu et Père duquel nous parlons n'est pas quelque chose qui était. Non, il est le Je suis. Et les hommes qui sont appelés de son nom, s'ils transpercent cette barrière et de tout ce qui est église et dénomination et doctrine et sens, et écoute ce que Dieu dit au moment où vous surpassez les murs de tout le doute et l'incrédulité. Et vous entendrez ce soir La voix de Dieu, vous allez quitter ce bâtiment guéri ce soir, car le même Dieu va vous rétablir votre santé. Dieu ne serait pas un Dieu de justice qui récompenserait les uns à cause de la foi et les autres qui croient ne les récompense pas. Non, il ne peut pas le faire. Si Dieu a guéri et a pu ôter de cette fille le SMI et a pu la guérir au moment même, le même Dieu doit le faire pour tous les autres qui croient. En une seule heure après que la prière fut prononcée, les docteurs ont été déclarés de la médecine. La fille a été prononcée, déclarée de la médecine guérie.
Je me rappelle du monsieur du congrès qui était assis pendant 66 ans dans une chaise roulante qui était avec monsieur Rodrigue. Quand il a été apporté pour la prière, Dieu montra une vision. Et Dieu l'a délivré à la seconde même. Si un autre homme dans la même situation vient et croit, Dieu doit répéter la même chose. Sinon Dieu serait injuste. Dieu est juste. Bien aimé ami, ça dépend de nous. Si nous pouvions seulement surpasser cette barrière de l'incrédulité par la foi et ne regarder plus à qui, à la personne qui prononce ces choses. Mais sachez que c'est Dieu qui l'a dit. Alors ramez toujours, allez de l'avant. J'ai souvent pensé au poète duquel j'avais déjà entendu parler dans mes années de scolarité, comment il est raconté dans cette poésie. Ramez toujours, allez de l'avant. Et il est raconté dans ce texte qu'alors que Colombo avait entrepris un voyage pour faire de l'exploration, car autrefois les hommes ne pouvaient pas croire que la terre est ronde. Il était un homme qui avait la vue pour comprendre cela. Et il avait la foi de réussir à le prouver. Et le bateau qui lui avait été mis à sa disposition, avec des prisonniers à l'intérieur,
Cela est comparable à des gens qui ne sont que des membres d'une assemblée sans être des membres dans le corps du Christ. Et ce sont ces prisonniers qui ont essayé de le décourager avec des arguments. Et lui ont dit, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Cela est impossible. Tu vas couler avec ton bateau au fond de la mer. Mais il a ramé toujours, allant de l'avant. Il n'a pas écouté à tous ces arguments. Rame toujours le bateau. Va de l'avant. Que Dieu puisse accorder des hommes dans l'église qui sont ainsi, qui ne regardent plus aux arguments des hommes, de la science et du monde et des dénominations. Dieu a dit dans sa parole, ramez de l'avant, ramez, allez de l'avant, jusqu'à ce que vous surpassez et transversez tous ces murs et ces barrières. Ô église, nous chantons souvent ce chœur, j'ai traversé le mur du péché et de la décision. Et s'il y avait eu un temps dans lequel l'église doit surpasser et traverser ce mur et ces barrières pour entrer dans la foi, pas par l'incrédulité de marcher d'après ce qu'on voit, mais dans la foi marchant dans les choses qu'on ne voit pas. Mettez tous vos soucis et tout ce qui vous afflige de côté. Vous pourrez peut-être dire, j'ai fumé depuis longtemps, j'ai bu et j'ai vécu dans l'incrédulité, dans l'adultère et je suis un péché. Que mon péché soit noir comme le croix m'a dit. Mais si vous surpassez ce mur du doute et du péché et l'incrédulité, même si Satan vous dit, vous ne pourrez pas surpasser ce mur, il est écrit dans les psaumes, avec mon Dieu, je surpasse des montagnes et des murs et des barrières. Car le trône est là et l'eau de la vie coule. Oh! Si vous qui êtes malade, vous pouvez passer par des lignées de prières et des lignées de prières. Mais vous pouvez aussi aller même au meilleur médecin. Et malgré tout, vous avez encore de l'incrédulité dans votre cœur. Vous devez atteindre cette étape où vous ne regardez plus à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, à ce que le monde scientifique dit. Jésus-Christ a donné la promesse. Et il a dit par ses maîtres, si nous sommes guéris, surpassés. Surpasser toutes ces barrières et le ôter et ôter ce doute qui est dans votre âme et entrer dans la foi. Si vous le faites, cela va s'accomplir. Il ne vous rejettera pas. Si vous venez au Seigneur, vous êtes délivré alors des choses de ce monde. On dit il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison divine, il n'y a plus de signes et de prodiges. Non, ramez de l'avant, bien aimés frères et sœurs. Jésus-Christ est le même qui vous dit que toutes choses sont possibles. Laissez-vous rendre libre de toutes ces choses et voler sans vibration, ayant traversé le mur du son. Jésus-Christ a prié pour vous. Il a établi dans l'église pour vous des docteurs, des apôtres, des gens comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, pour édifier l'église, pour la rendre disposée pour le ministère qu'elle doit accomplir. Vous n'avez pas besoin de titres et de diplôme. Jésus-Christ connaissait à 12 ans mieux les Écritures que tous ces docteurs de la loi. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un diplôme de théologie ou bien d'une foi intellectuelle, mais il s'agit de la révélation de la foi qui est dans le cœur. Jésus-Christ disait, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Quand je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Qu'il puisse ce soir venir parmi nous. Ne le demandez pas comment cela devra se passer, mais regardez au Dieu qu'il a dit et qu'il a promis. Comme cette femme au puits, les mêmes signes qui s'est passé autrefois, il le fait encore aujourd'hui, le même signe. Et il répète ces choses dans le temps des païens et des nations. Autrefois, c'était le signe du Messie. Mais les croyants intellectuels ne pouvaient pas saisir ces choses, mais les autres l'ont compris. C'est le même signe aujourd'hui. Et si ce soir il vient et se manifeste en tant que le vivant est le même parmi nous, alors que chaque pécheur puisse venir à lui et que chaque malade puisse être guéri et lui donner sa vie. Brisez chaque barrière, chaque ligne qui voudrait vous retenir de l'incrédulité et du doute. Tout est possible. Nous voulons prier. Ô Dieu fidèle éternel, toi qui étais Dieu avant même qu'un atome était dans, un atome était dans l'air, et qui sera Dieu quand il n'y aura plus d'atomes, toi qui as appelé le ciel et la terre à l'existence et qui l'a formé de ta main, et qui l'a appelé à l'existence, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ta parole ne peut pas mentir. Oh, ce soir, elle ne peut pas faillir. Tu as donné la promesse. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Cette parole est vraie. Seigneur Dieu, nous croyons que la guérison est quelque chose qui a eu lieu déjà à Golgotha. Et nous avons été rachetés. Comme le salut a été accompli, la guérison est aussi accomplie. Si nous pouvions seulement briser le mur du doute, oh Dieu, tu peux s'en permettre cela, de comprendre que tout est accompli. Que les hommes puissent croire et être délivrés de leur péché, de leur maladie, être guéris. Je te demande tout cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Pendant que nous courbons nos têtes, gardons nos têtes courbées, et fermons les yeux, je me demande combien sont ici et à l'intérieur et dehors qui voudraient confesser cela à Dieu et dire: Seigneur, souvent j'étais un membre de l'assemblée seulement et rien d'autre, mais il y a encore beaucoup de choses du monde en vous. Vous êtes toujours très rapidement en colère. Et vous ne pouvez pas avoir de patience. Et vous ne pouvez pas arriver dans l'endroit où vous voulez être, dans l'état dans lequel vous voulez vivre. Oh, est-ce que vous voulez ce soir venir au Seigneur? Et dites au Seigneur: permets-moi de surpasser toutes ces barrières et tous ces murs. Que Dieu vous bénisse tous. Oh, beaucoup de mains se sont levées. Seigneur, tu vois les mains. Que le Saint-Esprit, tu leur as dit de lever les mains, qu'ils puissent venir et les délivrer de toutes les vibrations qu'ils ont encore, de tout cet état d'être paralysé que le serpent a exercé sur eux, cette paresse, cette tiédeur, d'une manière que rien ne peut encore les retenir, et qu'ils puissent être sortis de l'influence du serpent qui les a paralysés et les hypnotisé. Nous voulons te remercier pour cela au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, avant que nous allions de l'avant, je voudrais demander combien sont malades. Y a-t-il des malades ici ce soir? Et vous vouliez dire: oh Dieu, accorde-moi de surpasser cette barrière, accorde-moi la foi pour vaincre toute chose. Est-ce que vous voulez lever vos mains et dire que Dieu puisse me faire grâce, que Dieu vous bénisse? Dans toute la salle, les mains sont levées. Père, accorde cela à chacun. Que quelque chose se passe ce soir. Que cela produira comme un fait, que les hommes reconnaissent que cela est la vérité. Et que la parole de Dieu est la vérité. Et que tu puisses confirmer dans leur vie la promesse telle que tu l'as faite avec Abraham, avec Moïse et avec tous les autres. Et telle que tu as dit à Pierre: viens à moi. Et il est sorti du bateau et il a marché sur l'eau. D'abord il regardait à toi et il fixait les yeux sur toi et pas aux vagues. Mais quand il a commencé à regarder aux vagues, alors il a commencé à couler. Oh Dieu, je te demande que ceux qui ce soir dans la foi regardent à toi pour venir à toi, qu'ils puissent fixer leur regard sur toi sans regarder aux vagues. Accorde à ton serviteur puissance et sagesse pour que ce que tu veux faire puisse s'accomplir ce soir. Accorde la bénédiction spirituellement et aussi corporellement. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez levé vos mains, je vous demande de faire quelque chose. Si le culte est terminé, si la réunion est terminée, nous prions ici pour les malades. Nous voulons ici devant aussi encore prier pour les malades. Mais directement après la réunion, quand elle sera terminée, Je vous demande, vous qui avez levé les mains vers mes 30 personnes, alors venez et pliez vos genoux ici devant, si vraiment vous êtes sincère dans votre cœur, et vous savez que Dieu va le faire. Si vous parlez avec lui et vous dites, Seigneur, ôte tout ce qui est incrédulité en moi encore, il le fera. Vous voyez, vous ne pouvez pas comme ça de vous-même être délivré. Mais si vous mettez de côté vos pensées intellectuelles et votre compréhension humaine, si vous ne la mettez pas de côté, cela ne pourra pas vous réussir. C'est Jésus qui a donné la promesse. C'est lui qui délivre. Et si une assemblée enseigne que cela est faux, cela est une fausse prophétie. Je ne suis pas juge. Vous le verrez vous-même. Vous le constaterez vous-même devant le jugement. Faites ce que Jésus nous a dit. De croire. Il y a au moins 200 hommes pour lesquels je dois prier, qui ont levé leurs mains. Je vais vous poser une question. Sur le fondement du message que nous avons entendu, regardez à l'invisible. Si l'invisible devient visible, alors cela produira l'effet dans votre âme que le mur du son soit traversé. Si l'invisible devient visible pour vous, il a promis de le faire. Rappelez-vous, nous sommes les nations. Si c'était autrefois, alors que il vint pour la première fois, c'était manifesté seulement aux Juifs et aux Samaritains. Nous étions païens. Autrefois, nous n'avons pas attendu sa venue. Mais les Juifs et les Samaritains, il vint et il a prouvé qu'il était le Messie duquel ils attendaient sa venue. Il est venu et il leur a dit ce qui était dans leur vie qui n'était pas en ordre. Et la même chose, il le fera avec les nations. Oui, autrefois, il disait, pourquoi est-ce que vous me jugez? Il est un homme. Il disait qu'il était un homme qui se prétendait Dieu. Il était les deux, Dieu et homme en même temps. L'extérieur était homme, l'intérieur était Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je ne fais rien en dehors de ce que le Père me montre. Vous voyez? Ce que le Père montrait, c'est ce qu'il faisait. Et quand il s'est révélé aux Juifs, comment cela s'est passé? Il avait dit à Nathanaël, par exemple, à qui est-ce qu'il était et ce qui s'est passé avant même qu'il vienne à lui. Nathanaël disait, tu es Christ, le roi d'Israël. Mais les incrédules juifs, les églises ont dit, le monde religieux a dit, il a le diable, il a le Belzébuth. Jésus-Christ a dit, si vous le dites contre moi, cela vous sera pardonné. C'était des Juifs. Mais dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit fera la même chose parmi les nations, une seule parole contre cela ne sera jamais pardonnée. Que ce soit ici ou bien dans la gloire. Quand le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose. Quand le Saint-Esprit rendra témoignage de lui-même. Oui, nous sommes dans une situation très sérieuse. Croyez-vous que Dieu est encore le Dieu vivant? Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours et nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des nations et que bientôt le Seigneur reviendra? Croyez-vous qu'il prépare son église pour l'enlèvement et pour son retour? Les signes, les ombres de sa venue sont déjà sur la terre. Regardez, déjà tout est à voir. L'ombre de sa venue est déjà sur son église et les choses que nous devons faire en son nom sont comme, que nous faisons en son nom, sont comme une ombre de la réalité de sa venue. Comme cette fille a été guérie de la leucémie et toute autre chose. Tout cela, c'est une ombre de sa venue. Oh, les morts ressusciteront et tous nous le rencontrerons dans les terres. Les restes du vent vont être transformés avant. Mais avant son retour, puisque son retour est devant la porte, nous voulons nous préparer. Venez maintenant au Seigneur, à sa parole originale et croyez ce qu'il a dit. Et je vous dis que ce soir, il fera la même chose comme avec la femme au puits de la Samarite et avec Nathanaël. Si il le fait et il le répète, est-ce que vous croirez tous? Levez vos mains. Merci, merci. Ce n'est pas que... S'il vous plaît, comprenez-moi bien. Si nous parlons de guérison et de rédemption, aucun homme peut guérir, aucun homme peut sauver. Nous pouvons que baptiser d'eau et annoncer la guérison et la rédemption. Dieu seul peut guérir et sauver. Mais c'est Dieu qui a préparé la guérison et le salut. Nous faisons que prêcher ta parole et il la confirme. Jésus a...
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean a dit, je baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi baptisera d'esprit et de feu. Jésus le prouve par les signes et les miracles. Il a prouvé qu'il est le même. Il prêche sa parole par ses serviteurs. Il la confirme devant vos yeux. Nous voulons être dans le recueillement tant que nous le pouvons. Je ne dis pas qu'il le fera, mais nous voulons appeler une ligne de prière et lui accorder la possibilité de se manifester parmi nous pour que nous puissions voir est-ce qu'il est présent ici ou pas. Vous tous qui croyez cela, si Jésus-Christ aujourd'hui fait la même chose qu'il a fait autrefois alors qu'il marchait sur cette terre, il était un signe autrefois pour beaucoup. Est-ce que vous croirez alors? J'avais lu de l'un des grands prédicateurs dans le monde, de Billy Graham, que le Seigneur utilise, un grand homme. J'avais lu dans le journal que quelqu'un lui avait écrit qu'il voulait savoir concernant la Trinité. Et la question a été posée, est-ce qu'il y a réellement trois dieux ou bien alors un seul Dieu? Et Billy Graham a répondu à cette personne, ce n'est pas encore révélé. Oh, frère, ne croyez jamais qu'il y a trois dieux. Il y a seulement un seul Dieu. Il y a trois manifestations, trois révélations. Le Père, le Fils et l'âge du Saint-Esprit. Dieu descendant du ciel. Autrefois, il était dans la colonne de feu sur la montagne. Ensuite, il est descendu, il est devenu chair en tant que fils. Et maintenant, il habite en nous par le Saint-Esprit. Le même Dieu, pas trois dieux, mais le même Dieu. Trois manifestations du même Dieu. Alors qu'il marchait ici sur cette terre, s'il vous plaît, écoutez. Alors qu'il marchait ici sur cette terre, il avait dit un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je suis venu de Dieu et je repars à Dieu. Combien ont lu cela? Oui, vous voyez. Il voulait repartir là d'où il était venu. Après qu'il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous voyez, le même. Il se dévoile en fait, c'est tout. Mais il est le même. Comme une branche d'un arbre. Vous voyez, alors qu'il était sur terre, il a dit, je viens de Dieu, c'était la colonne de feu. Et il repartira à Dieu. Et nous lisons que Paul, sur le chemin de Damas, et cette apparition l'a fait tomber à terre. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, il a regardé et il a vu la colonne de feu qui avait conduit le peuple d'Israël dans le désert. Une lumière qui a rendu ses yeux aveugles. Et voyez, Jésus de nouveau repartit dans l'état dans lequel il était auparavant. Et il a dit, qui es-tu Seigneur? Et la réponse a été, je suis Jésus. Il était de nouveau dans la colonne de feu. Vous voyez, le même esprit est avec nous ici. Nous avons son image. Cela a été pris par et confirmé par le monde scientifique. Il a été pris en photo pour prouver qu'il est encore vivant dans son église et qu'il fait la même chose et qu'il donne le même signe aux nations. Un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous qui avez traversé ce mur du son, vous me verrez. J'espère que ce soir vous croyez tous, prions ensemble. Oh Dieu, nous te remettons le reste de cette réunion entre tes mains. Tu dois faire ces choses, car nous ne pouvons pas le faire. Je te demande que tu puisses nous accorder ces bénédictions au nom de Jésus.
Amen. C'est un ordre. Bon. Je voudrais savoir, est-ce que tous, dans cette ligne de prière, je voudrais vous demander, êtes-vous convaincu 100% que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit? Croyez-vous que aujourd'hui il peut faire ce qu'il a fait autrefois alors qu'il marchait sur cette terre? Croyez-vous qu'il a envoyé son esprit dans son église pour faire continuer ses œuvres? Combien sont étrangers dans cette, pour moi, dans cette lignée? C'est vrai, il n'y a personne que je connais, c'est très bien. Chaque main s'est levée pour montrer que je ne les connais personne, que je connais personne. Je suis entièrement étranger de ces hommes. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Combien dans les bâtiments sont étrangers pour moi? Levez vous-même, vous voyez. Plus que la moitié de la réunion est étranger à moi. Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui. S'il fait la même chose, bien sûr, il peut faire la même chose. Bien sûr qu'il est le même, il fera. Nous nous sommes donnés entièrement à lui. Il le fera. C'est la première personne ici. Bon. Tel que autrefois cette femme, ici il y a une femme, là-bas un homme. Ici est l'homme. Nous ne nous connaissons pas. Nous nous rencontrons pour la première fois. Comment est-ce que je peux connaître cet homme? Tant que je sache, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Il était un homme entièrement étranger de moi. J'ai dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, si cela n'est pas vrai, je suis un hypocrite et la Bible est un mensonge. Bon, vous voyez, je vous demande, est-ce que je vous demande de regarder à quelque chose d'intellectuel? Non, mais de regarder à l'invisible. Il a promis de le faire. Vous voyez? Fais la même chose toi aussi. Et vous les autres aussi, regardez à l'invisible, regardez tous à l'invisible. Cela ne peut pas faillir. Moi je peux faillir, vous pouvez faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Ici il y a deux hommes. Nous nous rencontrons pour la première fois. Bon, ça c'est une image comme dans l'écriture. Là-bas il y avait un homme qui rencontrait un autre, qui était venu à Jésus. Son nom était Nathanaël. Jésus n'avait jamais vu de sa vie. Mais alors qu'il était venu à Jésus, il lui a dit que tu es un Israélite, dans lequel il n'y a aucune fausseté. Bon, s'il y a quelque chose qui t'est dit, comme Nathanaël autrefois, il disait, Rabbin, comment est-ce que tu me connais? Pas selon le vêtement, non. Les gens s'habillent, eux, pareillement aujourd'hui. Il aurait pu être quelqu'un d'autre, bien, quoi que ce soit, mais Jésus-Christ a dit qu'il est sincère et qu'il n'y a pas de fausseté en lui. Il a dit, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu, alors que tu étais sous l'arbre. C'était Jésus hier. S'il est aujourd'hui le même et qu'il habite en nous, alors il a promis de répéter la même chose pour que cet homme puisse t'avoir. Il peut être ici à cause de problèmes financiers, ou bien alors il peut être un homme de péché ou bien de justice, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le dire. Mais Dieu, lui, il le sait. Alors si Dieu le révèle que, et montre et prouve qu'il vit et le prouve à l'église, alors c'est lui qui sera le juge, si c'est vrai ou pas. C'est cet homme qui pourra dire si c'est vrai ou pas. Vous pourrez alors tous croire si de manière visible, ici, de cette manière, Dieu se révèle. Dieu peut apparaître dans un corps. Dieu peut le faire. C'est vrai qu'il a permis que cette photo soit faite de la colonne de feu, pour que le monde n'ait aucune excuse. Mais Dieu n'a pas besoin d'apparaître dans un corps. La même colonne de feu est Jésus-Christ. Et le même Jésus habite en nous et fait ses œuvres. Est-ce que vous comprenez bien tout cela maintenant? C'est bien. Bon, Seigneur, que tu puisses manifester que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Et que tu vis en nous. Et que tu veux que ces hommes puissent croire ces choses. Et qu'ils puissent tous brisés et surpassés les murs du péché et du monde et de l'incrédulité, pour qu'ils soient sauvés et guéris de leur maladie, pour l'honneur de ton nom. Amen. Je vois cet homme. Je vois ici un petit enfant. Et cet enfant, et c'est pour cette personne, c'est pour cet enfant que je dois prier. Donc ce n'est pas pour toi que je dois prier, mais tu désires de la prière pour une autre personne, pour une fille. Tu n'es pas de ce pays. Tu habites pas loin d'un grand lac. C'est une ville qui est pas loin d'une autre grande ville. Tu viens de New York, pas loin de Buffalo. Tu as de la tuberculose, mais tu pries pour cette fille. Tu crois que je suis ton serviteur, tu es Monsieur Warsen. C'est ton nom. Va à la maison, reçois les choses pour lesquelles tu as prié. Et impose à l'enfant ce bouchoir et il sera guéri. Si vous croyez tous, Jésus-Christ est vivant. L'invisible devient visible. Car c'est le même Jésus, la même colonne de feu, la même nuée, les mêmes prodiges et les signes, la même promesse. Ici est une femme. Je vais parler avec elle telle qu'il avait parlé à la femme au puits autrefois, pour que les hommes puissent voir. Lève ta main si je ne te connais pas. D'accord? Nous sommes étrangers l'un l'autre. Bon. Quoi que l'homme avait, moi j'ai rien à voir à faire de sa guérison. C'est Dieu qui l'a guéri. Par sa foi. Ce n'est pas moi. Non. C'est seulement un don. Nous sommes dans ce bâtiment. Ici, le même ange, le même ange, les mêmes chars et les chevaux sont ici dans ce bâtiment, tel que le serviteur d'Élysée les avait vus. Le même Jésus est ici. Ne regardez pas au visible, regardez à l'invisible. Car le moment est arrivé où Dieu confirme ce qu'il a dit et il le fait. Laissez-moi parler à cette femme. Bon, un moment, une guérison a eu lieu dans ce bâtiment. Et c'est ici la personne qui a été guérie. Je ne la connais pas. Mais c'est la femme qui est assise là-bas dans la réunion. Cette femme, elle a levé sa main et elle pleure. Elle a des souffrances de dos et des intestins. Et elle prie là-bas derrière le rang. C'est vrai? Tu as été guéri. C'est vrai, lève ta main encore une fois. Je ne te connais pas. Mais nous sommes étrangers. Repars à la maison. Tu as touché le bord de son vêtement. Toi ici, tu es la femme de celui qui était pour lequel je viens de prier. Je vous vois dans la même maison. Et tu souffres de nervosité. Je vois que tu étais aussi allé à un médecin. Et tu avais subi des examens. Et les examens étaient dans le bas de ton corps. Et tu as une maladie de femme. Et tu as un autre problème. Et tu as eu la foi que si tu viens dans cette réunion, tu seras guéri. Si cela est vrai, lève ta main. Pour que les hommes le sachent. Oui, lui qui sait tout sur toi, ne le fera-t-il pas? Viens ici. Seigneur Jésus. Accorde au Dieu qu'elle puisse retrouver sa joie et sa guérison. Et qu'elle soit entièrement guérie. La joie, le salut et la guérison te soient accordés à tous ceux qui te rencontrent. Ôte le mal d'elle au nom de Jésus. Amen. Tu te sens déjà mieux. En ordre. Repars et loue le Seigneur, remercie le Seigneur, car pour toujours cela t'a quitté. Oui, comment vas-tu? Soyez dans le calme. Tu ne pries pas non plus pour toi seul, pour toi-même.
crois que tu aurais besoin de prière. Tu pries pour ton fils. Ton fils n'est pas ici. Il est dans une grande ville, dans une grande ville. C'est à l'est. J'étais là-bas dans cette région, c'est à Philadelphie, lors de ma dernière campagne de vaccination. Il était prédicateur. Et ils veulent l'opérer. Ils l'ont examiné. Il a une brisure. Ainsi dit le Seigneur. Tu crois que Dieu t'accordera les choses pour lesquelles tu pries? Oh Dieu éternel, confirme ta parole et que cette femme soit guérie. Et accorde-lui la délivrance qu'elle a priée au nom de Jésus-Christ. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Crois-tu que cela s'est accompli? Merci. Tu crois que Dieu me révélera? Tu as beaucoup de choses. Tu es très nerveuse. Tu as des complications. Tu as des problèmes de femme au bas-corps qui est lié à cette brisure. Tu as une situation très difficile. Tu n'es même pas de cette ville. Tu viens de l'Indiana. Madame Alexandre repart à la maison. Il t'a guéri. Amen. Croyez-vous que c'est Dieu qui peut me dire pourquoi tu es ici? S'il peut le faire, est-ce que de tout ton cœur tu croiras? Tu n'es pas ici pour toi seul. Tu es ici à cause de cet enfant. Si Dieu me dit ce qui est fou avec cet enfant, il a une tumeur dans le sang, un cancer de sang. Crois-tu, si je prie à Dieu de doter cela du sang de l'enfant, l'enfant est trop petit pour avoir de la foi. Oh Seigneur Dieu, ils t'ont apporté des enfants autrefois pour que tu puisses te bénir. Le même Jésus se tient aujourd'hui présent ici parmi nous. Je condamne le diable qui veut ôter la vie de cette fille trop tôt. Satan, quitte cette fille, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Oui. Ne doute pas, car cela s'est accompli. Crois seulement. Crois. Toi qui es assise là-bas, avec ta tête courbée. Tu as des problèmes de tête, des douleurs d'intestin. Je ne te connais pas, mais lui te connaît. Tu as des douleurs d'intestin. Et tu as une brisure difficile au dos. Crois-tu que je suis ton prophète? Repars à la maison. Et tu ne souffriras plus de cela. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Crois seulement, c'est accompli. Oh, cela devient toujours plus fort, bien plus fort. Ici, je vois une femme, Ned. Elle est assise à côté de cette fille, cette femme. Je la vois. Une femme noire. Là-bas. Cette femme, elle a de l'athlétisme et d'autres complications. Elle est assise derrière cette femme appelée Eve. Tu ne la connais pas? Sœur, si tu crois, reçois comme tu as promis. Cela est accompli alors, si tu crois. Oui, vous pouvez savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dans le dernier rang derrière cette femme, il y a un homme qui a quelque chose au cou. Si tu crois, si tu peux croire, Dieu te guérira. Crois-tu? Enlève ta main. Je te suis étranger, mais lui, il n'est pas étranger. Il te connaît. Partout où vous êtes, croyez Dieu. Dieu vous connaît tous. Et surpassez ces murs du doute et de l'incrédulité. Le Saint-Esprit, permettez au Saint-Esprit de d'établir sa demeure en vous et de tuer tout ce qui n'est pas de Dieu et de vous guérir, de vous accorder la pleine rédemption. Crois. Repars à la maison, loue le Seigneur, remercie le Seigneur déjà. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi? Il est la lily de... Il est l'étoile du matin. Croyez-vous? Nous voulons maintenant de tout notre cœur croire. Si tu crois, tu peux recevoir, tu peux aller à la maison, manger ton pain et ne t'occupe plus de ton ulcère d'estomac. Si tu crois, Tu n'as plus besoin de mourir. Ton cancer t'a quitté. Croyez de tout votre cœur. Levez tous vos mains. Levez-vous. Levez-vous. Vous qui êtes paralytiques, levez-vous. Levez-vous. Levez vos mains. Et ensemble, mais comme un fort, nous voulons surpasser ce mur du sang. Dieu est ici. Chaque maladie est condamnée déjà. Alléluia. Louez le Seigneur. Le Dieu du Créateur du ciel et de la terre est ici. Nous t'apportons cette guérison, cette réunion. Il doit quitter cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chaque incrédulité, chaque esprit impur doit quitter cette salle et les hommes. Une délivrance totale. Satan sort. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Imposez-vous les mains les uns les autres. Et Dieu vous guérira tous. Imposez-vous les mains les autres. Et croyez, confessez votre guérison. C'est ça. Tout, vous tous qui croyez que vous êtes guéris, levez vos mains et confessez votre guérison. Et remerciez Dieu pour cela.